ça. Debout là-dedans, bordel. Allez, debout là-dedans.
Mais c'est quoi ce bordel?
Allez, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealer. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Allez, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealer. Qu'on veut pas de militaires, que des militants.
Les plus sceptiques, maraboutelés. Les plus réfractaires, contaminés. Fais le forcing, sort la tiraille, sort les munitions, l'artillerie braquée. Hey, campe sur des positions, bouge-les. Comme un MK, je les défense, réveille-les. Comme Zizou, réveille le stade de France. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met la fière. Ce soir, on vous met dans la tête une idée révolutionnaire. Mission Haïti, à coup de ghetto blaster. Message de paix, de Buenos Aires à Ramallah. Tous solidaires, de Dakar à Jakarta. Faire péter les watts, comme un acte humanitaire. Pour nos voisins, nos cousins, nos petits frères. Pour les nôtres, pour nos quartiers populaires. Réveille-les, et dis-leur c'est salutaire.
Debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp, dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants, dealer. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Hey, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp, dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants, dealer. Qu'on veut pas de militaires, que des militants.
Issu d'un peuple qui a beaucoup dormi. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus dormir. Issu d'un peuple qui a beaucoup dormi. Nous sommes issus d'un peuple.
Tout le monde debout.
Prends ce nouveau son comme une invitation à la révolution. Comme dirait tonton, ils nous prennent pour des cons. Ils nous endorment, nous embrigadent, nous prennent pour leurs pantins. Assez bon, assez soupé de leur baratin. Leur guerre de civilisation, leur fagnon, leur salade. Et choisis ton camp camarade, Washington ou Islamabad. Ça me rend malade, et on peut pas y échapper.
Partout,
à la radio, dans les journaux, à la télé.
Mais c'est quoi ce monde, bordel?
En tout cas, je suis pas de la partie.
Non, non, non.
Trop jeune pour mourir, trop vieux pour ces conneries. Tous ces politicards, ces soldats, ces jobards. S'ils viennent nous chercher, on saura les recevoir.
Debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp, dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants, dealer. Qu'on veut pas de militaires, que des militants. Hey, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique, on lève le camp, dealer. Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants, dealer. Qu'on veut pas de militaires, que des militants.
Y'a urgence, faut qu'on se rassemble, qu'on se mobilise, qu'on s'organise, réalise. Qu'il serait temps qu'on dramatise. En bas de chez Watt, y'en a qui crèvent la dalle. Ça se part en live. Et les champs sont inégales, y'a plus de repères, les minots sont du père. Le climat est tendu, on se croirait en état de guerre. Le message, c'est pour toi, toi, toi. Motive ta clique, ton clan, ta familia. Fais trembler les murs, vibrer.
Bah salut, bonsoir, c'est les mutins mutines qui reviennent. Voilà, alors nous on se proposait de passer une petite soirée au coin du feu. En fait c'est, on va vous parler... de nos... En tout cas, ça fait rire du monde dans le studio. Voilà, ouais. Et ben, on va vous parler de nos lectures au coin du feu des soirées d'hiver, et puis vous allez comprendre tout ça. Et ben, en attendant, on va quand même s'écouter un petit peu de musique là tout de suite. Voilà, c'est parti.
Cette chose étrange que l'on appelait espace public, près des arbres et sous leurs branches, rencontraient les impudiques. Sur l'agora ou dans les ruelles de Paris, s'organisait la révolte du peuple et des petits. La société de la discipline où l'enfermait ou exilait les disciples de Kropotkin. Puis vint la modernisation avec sa culture et sa surinformation. Le pouvoir, les décideurs trouvèrent l'arme télévision pour nous enfermer dans la peur, le mensonge, la lobotomisation. Et ils osent appeler ça instrument de communication alors qu'il n'y a qu'un sens de circulation. Ils nous crachent dans la bouche leur propagande et nous nous avalons. Bien heureux de pouvoir se rendre en famille chez Auchan. Dès l'enfance on donne un rôle, pose pas de questions, joue le vêtement, immergé intégralement, aveugle pion de la société de contrôle. Contrôle.
C'est un monde dont la force est l'ignorance, où la terre rapporte et où le présent est non-sens. Passé estropié et futur interdit. Société sous contrôle où la pensée est un symptôme de maladie. C'est écrit pour gommer les différences, vider l'être de son humanité et en faire un reverence. L'arborescence effectuée en contrôlant ton ADN, que les esprits deviennent adorateurs pour correspondre au modèle. Surveillé dans le privé, l'intime, l'individu perd l'étincelle et devient un être servile. Et les signes de vie ruissellent et puis s'estompe en une sorte de sommeil éternel. Rentre dans le schéma du système, l'histoire fait flipper à l'extrême. Comme si des signes avant-coureurs, le genre de monde était si blême. Sélection génétique pour résoudre les problèmes, écartèlement électrode pour faire obéir sur long terme la race humaine a pris du ferme.
interdit. J'ai plus de sentiments, on me les a interdits. On m'a lavé le cerveau et m'en servir, on me l'a interdit. On m'a dit de suivre un modèle et j'ai obéi. J'suis un rouage de la machine, j'ai ma place dans cette industrie. Ma vie ne se résume qu'à surveiller mes congénères. La gueule devant mon moniteur, je génère des tonnes et des tonnes de rapports, y compris sur mes confrères. La délation coule en moi comme le sang dans mes artères. J'ai oublié ce qu'était mon passé, effacé toute trace de ce que pouvait être la liberté. Je n'ai même plus besoin de regretter. Quelqu'un s'occupe à ma place de ce que je dois penser dans cette société. Je me dis que je suis indispensable, pas comme le mec d'à côté qui était pas assez rentable. Il a fini au sous-sol, torturé, puis criblé de balles. 1984, c'est la réalité, elle avance à fond la cale.
Le grand-père, je te laisse savoir, dans les poubelles de l'histoire. Mais le sang des vrais morts rouges et noirs laisse des traces dans les mémoires.
Ils veulent nous la jouer.
1984,
entre Mirador et Sinestro,
faut continuer à se battre,
on ne veut pas qu'un
meilleur d'être. Je te laisse savoir, dans les poubelles de l'histoire. Mais le sang des vrais morts rouges et noirs laisse des traces dans les mémoires.
Ils veulent nous la jouer.
1984,
entre Mirador et Sinestro,
faut continuer à se battre,
on ne veut pas.
Hey, vous êtes toujours sur Mutant Mutine, et cette chanson, c'était Mary Read. Le titre, Sous Contrôle, un remix par Trauma. Alors cette chanson peut vous sembler inconnue, c'est normal. Elle se trouve sur une compilation qui vient de sortir il y a à peine quelques semaines. C'est la compilation d'informations et de soutien contre le fichage ADN. On en avait déjà parlé dans l'émission. On l'annonçait genre peut-être toutes les émissions à un moment. Voilà, ça y est, elle est enfin disponible. Vous pouvez la commander sur un mail. C'est compile-adn@no-log.org. Et puis elle sera téléchargeable sur un site internet. On mettra tout ça sur notre site à nous. C'est mutin-mutine@.c.la. Et si jamais vous voulez nous appeler aussi pendant l'émission, c'est le 02 98 05 09 11. Voilà, elle la compile juste, je vais en parler très rapidement. C'est pas que de la musique, c'est aussi une brochure d'information et de soutien. Donc, alors le principe, c'est des textes qui présentent la loi, qui présentent ce que c'est que le fichage ADN, comment ça s'est imposé, quels sont les moyens de le refuser. Et il y a, en théorie, la brochure est censée, tous les frais qui sont gagnés, on va dire, en diffusant cette brochure, sont censés pouvoir être envoyés donc aux gens qui passent en procès suite à un refus de fichage ADN. Il y a une autre brochure encore sur le fichage ADN qui s'appelle Refuser le fichage ADN. On mettra celle-là aussi sur notre site. Voilà.
Donc voilà, donc l'ADN, fichage ADN qui fait partie des choses qu'on n'apprécie pas trop dans ce monde. Et donc cette émission donc au coin du feu qui vous permet d'écouter ce qu'on écoute au coin du feu et qui vous permettra justement juste maintenant d'écouter ce qu'on lit aussi. Donc je vais commencer par vous lire une partie de Lola Lafont qui a publié deux bouquins, donc un bouquin qui s'appelle Une fièvre impossible à négocier et qui est sorti en 2003. Et un deuxième bouquin qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle De ça je me console, et qui explique un peu, voilà, enfin, vous allez comprendre. Alors, tout a commencé à me faire horreur. Tout, les passants, les trottoirs d'école primaire, et les phrases légères de ceux dont j'observais le corps oxygéné et triomphant. Ma génération qui restait vaseusement jeune, jeune, jeune. Ils disaient « tranquille, à la cool », ils disaient « ciao, ciao » en votant à gauche. Achetaient aux épiciers arabes des poignées de bonbons verts en plastique. Ils s'exclamaient « Je prends aussi les nounours, monsieur ». Et leur rire transpirait la certitude très juste qu'ils avaient d'être en train de crever quand même. Ma génération remplissait consciencieusement les papiers des impôts et avalait calmement les codes-barres et des brunchs. Puis elle rotait de la tequila le week-end et se réveillait tard. J'étais entouré de presque morts, affolés d'être encore vivants. Ils s'employaient à amenuiser cette sensation qui les tenaillait. J'avais moi-même des accès de mort comme des évanouissements à mon état de vie. Je n'allais quand même pas vieillir avec eux. J'étais en train de vieillir avec eux. Je revenais d'une fuite immense. En vérité, je m'étais soustraite à ce qu'on me présentait comme la vraie vie. J'étais allé chercher la nuit, j'avais dérivé et traversé la terre. J'allais à tâtons, trouver des extraits d'étincelles inoubliables, des choses vraiment bien. Alors il fallait les noter, ne pas oublier. Les presque morts, eux, parlaient fort de leur capacité de mémoire en cultivant l'oubli et le divertissement. Ils faisaient une farandole obligatoire, ma génération me tendait la main, m'attrapait, leurs mouvements me donnaient la nausée. Ils tournaient consciencieusement le visage anxieux, pressés de lâcher le plus vite possible ses mains qu'ils tenaient, quitter le cercle pour un strapontin, une chaise, une banquette, le fauteuil, une place. Quelques mois auparavant, des enfants sans siècle qui brûlaient de tout brûler avaient encerclé la ville de fumée. De ces émeutes qui ne faiblissaient toujours pas, on ne percevait maintenant plus rien loin des portes surveillées de la ville, le silence avait repris son cours. De grands cars bleu marine roulaient lentement dans la journée, puis se garaient dans les quartiers à risque. Là, la police française reprenait cette vieille conversation, l'air de rien, de rafle en vérification d'identité au faciès. Les enfants restaient cachés sous les tables dans les écoles, les yeux fermés, ils apprenaient à ne pas donner leur vrai nom. On commençait à mourir dans la ville et certains se tenaient à genoux, la main offerte aux passants rapides, voyant dans cette posture la seule façon de se démarquer des autres, allongés dans leur sac de couchage au pied des feux rouges, verts. Le dimanche matin, dans les petites rues coudées, aux balcons désordonnés de plants de rares et de fleurs, des files d'attente de près de 100 mètres encadraient certaines boulangeries. Les couples de ma génération étaient patients. Ils savaient ce qu'ils voulaient. C'est que ce pain, on en avait parlé dans Elle, c'était le meilleur du quartier. Et comme ça, juste comme on met un pas devant l'autre, les trottoirs et ceux qui y circulaient se sont chargés d'une violence qui m'a regardé attendre. Qu'il se passe quelque chose, il fallait qu'il se passe quelque chose. Bien sûr, je me doutais qu'à l'intérieur des presque morts, on trouverait parfois un vivant. Je les sentais, les présences contraintes et muettes. Mais si peu se montraient. Où étaient-ils réunis? Comment les reconnaître? J'étais après tout, moi aussi, anonyme dans mon dégoût, caché sous une presque morte, comme eux. On se frôlait sans se chercher. Pour beaucoup, je suis disparu depuis presque 3 ans. Moi, je vois ça comme une soustraction. Une soustraction volontaire, voilà. Et aujourd'hui, je suis en état précaire, momentané. Précaire vient de prière, il paraît. C'est toi qui me l'as appris. Mais ce n'est pas à genoux que je me tiens, simplement de côté, en retrait, et j'aime à penser qu'on peut être en suspens un moment, juste avant. Voilà, je crois que ça va être tout pour cette partie-là. Et je continue avec Lola Lafont, qui fait pas seulement qu'écrire non plus, elle chante, mais ça va être juste après cet autre extrait que j'essaye de retrouver maintenant. Donc là, c'était un peu une critique, un peu voilà, enfin, de comment elle sentait mal à l'aise face à ce monde-là. Et voilà, je vais essayer de trouver comment elle se trouve mal à l'aise aussi face à la critique de ce monde-là, justement. Enfin, comment la contestation lui paraît difficile à tenir ou paraît difficile, enfin, comment dire, voilà, enfin, elle paraît difficile, quoi. Enfin, vous allez mieux comprendre en écoutant. Un jour où on passait, toi et moi, devant un McDo, en grève, et qu'un garçon nous avait tendu un tract, j'en avais profité pour te parler de ma théorie. Ceux qui me tendaient ces tracts me faisaient penser à des urgentistes. D'une mauvaise nouvelle à une autre, d'une annonce du gouvernement à la... d'une annonce du gouvernement à la suivante, ils fonçaient, équipés d'instruments anciens et mal adaptés, comme des mégaphones, des tracts, des pétitions et des revendications concernant des lois qui seraient votées tranquillement, dans des endroits où le brouhaha de la manif ne parvenait pas. C'était comme si on essayait, à ce moment-là, d'ériger des petits barrages devant ce qui déferlait. Ça m'évoquait la guerre de sécession dans Autant n'emporte le vent. Scarlett cherche son amant parmi les blessés, la caméra se rehausse, l'image s'agrandit en même temps que la musique sur des corps, de plus en plus de corps blessés, pensés, qui gémissent et tendent leurs mains vers elle, devenues toutes petites au milieu des supplications. Les urgentistes couraient dans tous les sens avec leurs petits sparadraps, ils étaient essoufflés, personne ne leur donnait à boire et ils allaient mourir. Pour tout ça, j'allais rarement dans les manifs, même quand la cause me séduisait. Les quelques rares rassemblements auxquels j'avais participé me laissaient un violent sentiment de défaite, un désespoir envahissant, comme si en manifestant si proprement et en marchant au pas, encadré par des CRS, je venais d'admettre au visage des ennemis à combattre que je m'inclinais, que tous deux, nous le savions, et qu'il ne me restait comme arme que les symboles dans ce simulacre défilé dans un parcours autorisé de 14h à 17h le samedi. Le bruit, les slogans, tous ces sons s'estompaient et devenaient minuscules dès qu'on s'éloignait un peu du cortège, 2 rues plus loin. Il n'en restait rien. Alors c'est vrai que les urgentistes, bons et patients, je voyais mal ce qu'ils espéraient, à part coller des bouts de pansement sur leur chemin, dont ils savaient eux-mêmes qu'ils se décolleraient, avec tout ce sang qui coulerait sans attendre derrière le sparadrap. Mais je le concédais, ce raisonnement me laissait en suspens dans mon malaise, et je les prenais leur tract, et en souriant, encore, parce qu'il me semblait que leur dire suffisante, ce n'est pas grand-chose, ce que vous faites, c'était acheter un ticket d'entrée vers ma génération de jeunes, et célébrer avec elle un renoncement à tout, en faisant comme si tout ça n'était rien qu'un film de grande personne qui passait en deuxième partie de soirée, avec un carré blanc. Alors je me taisais, en attendant de trouver autre chose que du sparadrap. Donc voilà, elle fait pas que se taire Lola à fond. Et on va peut-être écouter sa chanson. En fait, elle chante avec Léva, un groupe qui s'appelle Léva. Et ils ont sorti un album il y a pas trop longtemps, enfin il y a 2-3 ans peut-être. Et ça s'appelle Grandir à l'envers de rien. Et la chanson, si je me rappelle bien, c'est blablabla, blablabla, blablabla. Je t'en prie. C'est le bilan de compétences, c'est ça? Ouais. Félicitations. Bonne écoute.
C'est solitaire, un petit peu la guerre. On grandit mal, mal, mal. Si on grandit, c'est qu'il fallait le faire pour avoir l'air normal, mal, mal. On passe des tas d'heures banales à tutoyer le désert. Le ciel a l'air malade de l'atmosphère. C'est un petit peu la guerre. Et c'est même pas l'enfer, juste les jours qui manquent d'air. Ça donne envie de faire taire cette personne, mais quelle conne qui grandit mal. L'emploi du temps, accès à l'espace client, des mots qui rendent sale, 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 et tomber sous le sens, s'allonger dans le silence, grandir à l'envers, de rien, 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 c'est solitaire, comme un plaisir délétère, je finirai.
Vous êtes toujours sur Mutin Mutine, c'était donc Lola Lafont, bilan de compétences. Alors c'est à mon tour de vous faire partager une lecture au coin du feu. Pas que au coin du feu parce que j'avais déjà lu ce texte avant, mais bon, enfin voilà. C'est un texte très mystérieux, un petit livre à la couverture brune qui s'appelle Appel. Je vais commencer par lire la quatrième de couverture pour vous donner un peu, le timbre du texte. Chaque jour, la jeunesse attend sa chance comme l'attendent les ouvriers, même les vieux. Ils attendent tous, ceux qui sont mécontents et qui réfléchissent. Ils attendent que se lève une force, quelque chose dont ils feront partie, une sorte d'internationale nouvelle qui ne fera plus les erreurs des anciennes. Une possibilité d'en finir une fois pour toutes avec le passé et que commence quelque chose de nouveau. Nous avons commencé. Voilà. Un dédicace à une personne qui se reconnaîtra. Appel. Proposition 1. Rien ne manque au triomphe de la civilisation. ni la terreur politique, ni la misère affective, ni la stérilité universelle. Le désert ne peut plus croître, il est partout, mais il peut encore s'approfondir. Devant l'évidence de la catastrophe, il y a ceux qui s'indignent et ceux qui prennent acte, ceux qui dénoncent et ceux qui s'organisent. Nous sommes du côté de ceux qui s'organisent. Scully. Ceci est un appel, c'est-à-dire qu'il s'adresse à ceux qui l'entendent. Nous ne prendrons pas la peine de démontrer, d'argumenter, de convaincre. Nous irons à l'évidence. L'évidence n'est pas d'abord affaire de logique, de raisonnement. Elle est du côté du sensible, du côté des mondes. Chaque monde a ses évidences. L'évidence est ce qui se partage ou partage. Après quoi, toute communication redevient possible, qui n'est plus postulée, qui est à bâtir. Et cela, ce réseau d'évidence qui nous constitue, on nous a si bien appris à en douter, à le fuir, à le taire, à le garder pour nous. On nous l'a si bien appris que tous les mots nous manquent quand nous voulons crier. Quant à l'ordre sous lequel nous vivons, chacun sait à quoi s'en tenir. L'Empire crève les yeux. Qu'un régime social à l'agonie n'ait plus d'autre justification à son arbitraire que son absurde détermination, sa détermination sénile, a simplement duré. Que la police, mondiale ou nationale, ait reçu toute l'attitude de régler leurs comptes à ceux qui ne filent pas droit. Que la civilisation blessée en son cœur ne rencontre plus nulle part, dans la guerre permanente où elle s'est lancée, que ses propres limites. Que cette fuite en avant, déjà centenaire presque, ne produise plus qu'une série sans cesse plus rapprochée de désastres. Que la masse des humains s'accommode à coups de mensonges, de cynisme, d'abrutissement ou de cacheton à cet ordre des choses, nul ne peut prétendre l'ignorer. Et le sport, qui consiste à décrire sans fin, avec une complaisance variable, le désastre présent, n'est qu'une autre façon de dire « c'est ainsi ». La palme de l'infamie revenant aux journalistes, à tous ceux qui font mine de redécouvrir chaque matin les saloperies qu'ils avaient constatées la veille. Mais ce qui frappe pour l'heure, ce ne sont pas les arrogances de l'Empire, c'est plutôt la faiblesse de la contre-attaque. Comme une colossale paralysie. Une paralysie de masse, qui dit tantôt qu'il n'y a rien à faire quand elle parle encore, tantôt qui concède, poussée à bout, qu'il y a tant à faire, ce qui n'est pas différent. Puis, en marge de cette paralysie, le « il faut bien faire quelque chose, n'importe quoi » des activistes. Seattle, Prague, Gênes, la lutte contre les OGM ou le mouvement des chômeurs. Nous avons pris notre part, nous avons pris notre parti dans les luttes des dernières années. Et certes pas du côté d'attaque ou des tout est bianqué. Le folklore protestataire a cessé de nous distraire. Dans la dernière décennie, nous avons vu le marxisme-léninisme reprendre son monologue ennuyeux dans des bouches encore lycéennes. Nous avons vu l'anarchisme le plus pur nier aussi ce qu'il ne comprend pas. Nous avons vu l'économisme le plus plat, celui des amis du monde diplomatique, devenir la nouvelle religion populaire, et le négrisme s'imposer comme unique alternative à la déroute intellectuelle de la gauche mondiale. Partout, le militantisme s'est remis à édifier ses constructions branlantes, ses réseaux dépressifs jusqu'à l'épuisement. Il n'a pas fallu 3 ans aux flics, syndicats et autres bureaucraties informelles pour avoir raison du bref mouvement anti-mondialisation, pour le quadriller, le diviser en terrain de lutte, aussi rentable que stérile. À l'heure qu'il est, de Davos à Porto Alegre, du MEDEF à la CNT, le capitalisme et l'anticapitalisme décrivent le même horizon absent, la même perspective tronquée de gérer le désastre. Ce qui s'oppose à la désolation dominante n'est en définitive qu'une autre désolation, moins bien achalandée. Partout, c'est la même bête idée du bonheur, les mêmes jeux de pouvoir tétanisés, la même désarmante superficialité, le même analphabétisme mondial, le même désert. Nous disons que cette époque est un désert et que ce désert s'approfondit sans cesse. Cela, par exemple, n'est pas de la poésie, c'est une évidence. Une évidence qui en contient beaucoup d'autres, notamment la rupture avec tous ceux qui protestent, tous ceux qui dénoncent et glosent sur le désastre. Qui dénonce s'exempte. Tout se passe comme si les gauchistes accumulaient les raisons de se révolter, de la même façon que le manager accumule les moyens de dominer. De la même façon, c'est-à-dire avec la même jouissance. Le désert est le progressif dépeuplement du monde. L'habitude que nous avons prise de vivre comme si nous n'étions pas au monde. Le désert est dans la prolétarisation continue, massive, programmée des populations, comme il est dans la banlieue californienne, là où la détresse consiste justement dans le fait que nul ne semble plus l'éprouver. Que le désert de l'époque ne soit pas perçu, cela vérifie encore le désert. Certains ont essayé de nommer le désert, de désigner ce qu'il y a à combattre non comme l'action d'un agent étranger, mais comme un ensemble de rapports. Ils ont parlé de spectacle, de biopouvoir, d'empire. Mais cela aussi s'est ajouté à la confusion en vigueur. Le spectacle n'est pas une abréviation commode de système masse médiatique. Il réside aussi bien dans la cruauté avec laquelle tout nous renvoie sans cesse à notre image. Le biopouvoir n'est pas synonyme de sécu, d'état-providence ou d'industrie pharmaceutique, mais se loge plaisamment dans le souci que nous prenons de notre joli corps, dans une certaine étrangeté physique, à soi comme aux autres. L'Empire n'est pas une sorte d'entité supraterrestre, une conspiration planétaire de gouvernement, de réseaux financiers, de technocrates et de multinationales. L'Empire est partout où rien ne se passe. Partout où ça fonctionne. Là où règne la situation normale. C'est à force de voir l'ennemi comme un sujet qui nous fait face, au lieu de l'éprouver comme un rapport qui nous tient, que l'on s'enferme dans la lutte contre l'enfermement. Que l'on reproduit sous prétexte d'alternative le pire des rapports dominants. Que l'on se met à vendre la lutte contre la marchandise, que naissent les autorités de la lutte anti-autoritaire, le féminisme à grosses couilles et les ratonnades antifascistes. Nous sommes à tout moment partie prenante d'une situation. En son sein, il n'y a pas des sujets et des objets, moi et les autres, mes aspirations et la réalité, mais l'ensemble des relations, l'ensemble des flux qui la traversent. Il y a un contexte général, le capitalisme, la civilisation, l'empire, comme on voudra. Un contexte général qui non seulement entend contrôler chaque situation, mais pire encore, cherche à faire qu'il n'y ait le plus souvent pas de situation. On a aménagé les rues et les logements, le langage et les affects, et puis le tempo mondial qui entraîne tout cela, à ce seul effet. Partout, on fait en sorte que les mondes glissent les uns sur les autres ou s'ignorent. La situation normale est cette absence de situation. S'organiser veut dire partir de la situation et non la récuser, prendre parti en son sein, y tisser les solidarités nécessaires, matérielles, affectives, politiques. C'est ce que fait n'importe quelle grève dans n'importe quel bureau, dans n'importe quelle usine. C'est ce que fait n'importe quelle bande, n'importe quel maquis, n'importe quel parti révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. S'organiser veut dire faire consister la situation, la rendre réelle, tangible. La réalité n'est pas capitaliste. La position prise au sein d'une situation détermine le besoin de s'allier, et pour cela d'établir certaines lignes de communication, des circulations plus larges. À leur tour, ces nouvelles liaisons reconfigurent la situation. La situation qui nous est faite, nous l'appellerons guerre civile mondiale. Où rien n'est plus en mesure de borner l'affrontement des forces en présence. Pas même le droit, qui entre plutôt en jeu comme une autre forme de l'affrontement généralisé. Le « nous » qui s'exprime ici n'est pas un « nous » délimitable, isolé, le « nous » d'un groupe. C'est le « nous » d'une position. Cette position s'affirme dans l'époque comme une double sécession. Sécession avec le processus de valorisation capitaliste d'une part, sécession ensuite avec tout ce qu'une simple opposition à l'Empire, fut-elle extra-parlementaire, impose de stérilité. Sécession donc avec la gauche. Ou sécession indique moins le refus pratique de communiquer qu'une disposition à des formes de communication si intenses qu'elles arrachent à l'ennemi, là où elles s'établissent, la plus grande partie de ses forces. Pour faire bref, nous dirons qu'une telle position emprunte aux Black Panthers pour la force d'irruption, à l'autonomie allemande pour les cantines collectives, aux néoludites anglais pour les maisons dans les arbres et l'art du sabotage, aux féministes radicales pour le choix des mots, aux autonomes italiens pour les autoréductions de masse et au mouvement du 2 juin pour la joie armée. Il n'y a plus d'amitié pour nous que politique.
À perdre, seul m'importe le verbe et ma horde. Je suis à vie l'ennemi de l'homme.
C'est moi l'ennemi, moi qui suis malmené et mal aimé, et qu'on a surnommé le mal incarné, qu'on a berné toutes ces années. L'indigène à qui on aime mener une chasse acharnée, mes chances de survie sont en sursis, mon avenir est proche de l'asphyxie, car le pouvoir s'est fixé, le devoir de hisser des remparts autour des peaux noires et métissées. Je suis le souci de l'ordre établi, l'ombre au tableau quand la presse publie. Et si ce bled faiblit, je deviens l'alibi, et le blé fait faux bon, donc ça sent bon la xénophobie. On aime m'accabler, et devant sa télé, le peuple attablé, chaque soir est comblé. Je fais peur et trembler, les médias rassemblés. Je suis capable du pire, coupable dans les mid-lords. Je me méfie quand on m'aborde.
garde et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord, l'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord, je suis une menace et une nuisance. À l'évidence, la délinquance en puissance. Coriace sous la cuirasse, tenace dans la démence. Une extrême virulence sans classe et élégance. On discute de ma jeunesse, mon impatience, mon faciès, mes prouesses, mon inconscience. On appelle la science qui dissèque ma race. Mes rues, toi et taudis qui embarrassent. J'ai les pires tendances, je suis de la pire espèce. On dit que je casse et agresse dans l'allégresse. Que je transgresse et agace en état de grâce. Qu'apparaît stress et détresse là où je passe. Que seul m'intéresse la paresse. Que j'ignore la tendresse. Que j'adore ajouter des crimes à mon palmarès. Que c'est avec le poing que la police me dresse. Et qu'au-delà du périph' nord se trouve mon adresse. L'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. L'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. N'ai pas l'air qu'on tolère, j'ai l'allure, abonné au bas salaire, la couleur qui ne connaît que la colère. Et pour l'heure, j'ai la figure accolée au malheur. J'endure, brûlure, molar et procédure. Parcours au radar, mirador et coup dur. Le refus des videurs et les règles en vigueur. Le mépris des leaders, les lois et les rigueurs. C'est la guerre contre moi et pour la gloire. Je suis contrarié, sans emploi ni espoir. Et les hautes sphères conspirent sans tête et aspirent à pourrir jusqu'à l'atmosphère que je respire. Et l'ordre veut me mordre, me tendre un piège énorme et puis me tordre. M'aborde avec une potence et une corde. Et avance que désormais c'est la chance qu'il m'accorde. L'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. L'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. L'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord. L'ennemi de l'ordre, je me méfie quand on m'aborde et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mordre. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord.
Et ben voilà, et ben c'était un titre de Kazé qui s'appelle Ennemi de l'ordre, et voilà. Et du coup.
Oui, alors je vais m'expliquer par rapport. Me justifier, justement, ce qu'il faudrait que j'évite, mais je vais quand même le faire. Me justifier pourquoi est-ce que j'ai lu la proposition numéro 1 d'appel. C'est un texte qui est très bien écrit, peut-être malheureusement trop bien écrit. Enfin, en fait, il bouleverse pas mal les conceptions qu'on peut se faire du militantisme, parce que c'est. Enfin, c'est voilà une critique acerbe. Enfin, on voit ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est qu'on voit la déception en fait qu'ont pu ressentir certaines personnes d'un milieu militant traditionnel, et du coup de comment est-ce qu'elles ont pu sortir de ce milieu militant et puis constituer d'autres groupes qui agissent mais d'une façon différente. Et la proposition 1, c'est un peu l'introduction générale, donc ça donne un peu le timbre du texte. Mais sinon, moi, je vous invite à le lire quand même. Même s'il y a des choses un peu spéciales, mais il sera disponible sur notre site, le site de Mutin Mutine, mutin-mutine au pluriel .ca.la. Voilà.
D'accord, bah, tu l'as dit, tu t'en occupes.
Oui.
voilà.
Tout le monde n'aime pas l'appel.
En fait, on va continuer du coup, et puis là, je voulais vous. Faire profiter d'une de mes lectures au coin du feu là, de cet hiver et tout, ces derniers temps. Et voilà, c'est un auteur que j'ai découvert qui s'appelle Traven. Enfin, il s'appelle, on sait pas bien comment il s'appelait d'ailleurs. C'est certainement un pseudo, enfin B.Traven. Il est certainement d'origine allemande et il a fini ses jours au Mexique. Voilà. Entre temps, c'est un gars qui a pas mal bourlingué et qui a traversé un petit peu le XXe siècle aussi. Enfin, il a vécu assez vieux finalement, je crois. Voilà. Et donc là, en fait, moi, le bouquin dont je vais lire des extraits, là, ça s'appelle Le vaisseau des morts. Et c'est un bouquin qui a mis très longtemps à être traduit en français. Enfin, là, c'est la version que j'ai là. C'est la première version intégralement traduite en français, même si le bouquin est sorti en 1926. Et donc voilà. Et en fait, bah, dans ce bouquin-là, Traven raconte un peu les mésaventures d'un pauvre gars, voilà, prolo, qui petit à petit, comment dire, chute, quoi. Enfin, va un peu de chute en chute, quoi, enfin, par rapport au système capitaliste et surtout au contrôle de l'État. Enfin, c'est voilà ce qui est omniprésent dans ce bouquin-là, c'est le contrôle de l'État qui se met en place petit à petit à cette époque-là, quoi. Enfin, c'est il croque un peu une époque là au sortir de la guerre de 14-18, où enfin pour lui c'est vraiment à ce moment-là que l'État commence à contrôler la vie des gens et à contrôler les gens, tout simplement, invente un peu la notion d'identité, demande aux gens d'avoir des papiers pour prouver leur identité, etc. Voilà, alors je sais pas si j'aurai le temps de lire tous les extraits que j'avais trouvé moins intéressants, mais voilà, je vais commencer. Alors en fait, bon, c'est un roman, hein, c'est pas un essai, hein. Et du coup, là, le personnage, le narrateur, qu'on soupçonne un peu d'être un peu l'auteur, quoi. Enfin, c'est en grande partie autobiographique. Traven disait que la biographie d'un créateur n'a absolument aucune importance. Si l'auteur ne peut être identifié par son œuvre, c'est que celle-ci, comme lui-même, ne valent rien. Voilà, donc du coup, on imagine qu'il s'investit énormément dans ses personnages. Enfin, en tout cas, ses personnages sont très chargés de lui-même. Voilà, donc là, en fait, c'est un marin américain qui a débarqué à Anvers, quoi, en Belgique. Qui est débarqué de son bateau, qui est allé passer la nuit dans le port, voilà, quoi, comme une nuit à terre. Et puis le matin, quand il retourne à son bateau, bah, le bateau est parti. Voilà, donc on se situe à ce moment-là. Je m'assis sur une caisse qui se trouvait là et accompagné en pensée la traversée de la Tuscaloosa. J'aurais bien voulu qu'elle se jette sur un rocher et soit forcée de rebrousser chemin, ou du moins de débarquer l'équipage et de le renvoyer à terre en canot. Mais elle évita sans doute les écueils avec soin, car je ne la vis pas revenir. Toujours est-il que je lui souhaitais du fond du cœur tous les accidents et tous les pépins possibles. Je me la représentais surtout en train de tomber aux mains des pirates. Il la ratisserait proprement, reprendrait à ce Bob tout ce qu'il s'était approprié entre-temps, et lui ficherait un tel nion sur la bobine que ça lui ferait passer le goût de ricaner pour le restant de ses jours. Comme je commençais juste à somnoler un peu et à rêver à cette jolie fille, quelqu'un me tapa sur l'épaule et me réveilla. Il me noya aussitôt sous un déluge de paroles précipitées, si bien que j'en eus le vertige. Exaspéré, je lui rétorquai. « Merde alors, laissez-moi tranquille. Ça ne me plaît pas de vous entendre jacasser comme ça. En plus, j'y comprends rien. Allez au diable !»« Vous êtes anglais ?» me demanda-t-il alors dans ma langue. « Non, Yankee. »« Ah bon, américain. Yes, fichez-moi la paix et tâchez de filer. Je ne veux rien avoir à faire avec vous. »« Moi si, je suis de la police. » Vous avez bien de la chance, mon cher ami. La place est bonne, répliquai-je. Et alors, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes dans la mouise? Vous avez des soucis? Marin? Poursuivit-il sans s'émouvoir. Yes, old man. Vous avez peut-être du travail pour moi? De quel bateau? De la Tuscaloosa, de la Nouvelle-Orléans. Il est parti à 3h du matin. Je n'ai pas besoin que vous veniez m'annoncer la nouvelle. Cette blague est déjà usée, elle court les rues depuis longtemps. Où sont vos papiers? Quels papiers? Votre livret de marin. Nom d'une pipe en bois, mon livret de marin, il était dans ma veste. Ma veste était dans mon sac, et mon sac était bien douillettement logé sous ma couchette, à bord de la Tuscaloosa. Laquelle était, oui, où pouvait-elle bien être en ce moment? Si seulement je savais ce qu'ils avaient eu ce matin au petit déjeuner. Le nègre a sûrement de nouveau laissé brûler le lard. Je vais lui dire deux mots quand je repeindrai les cuisines. Votre livret de marin, vous savez bien de quoi je veux parler. Mon livret de marin, bon... Si c'est bien de ça que vous voulez parler, je vais être obligé de vous avouer la vérité. Je n'ai pas de livret de marin. Vous n'en avez pas? Vous auriez dû entendre un peu son ton éberlué. Celui qu'il aurait employé pour me dire quoi? Vous ne croyez pas qu'il y a de l'eau dans la mer? Pour lui, il était impossible qu'on n'ait pas de livret de marin. Il répéta sa question pour la troisième fois, mais c'était pur réflexe. Il s'était déjà remis de sa surprise et ajouta. Pas d'autres documents? Carte d'identité, passeport ou autre pièce justificative? Non. Je fouillais mes poches avec application, même si je savais pertinemment que je n'avais pas la moindre enveloppe vide à mon nom. « Venez avec moi, me fit alors le type. »« Où ça ? » ?»« demandai-je, car je voulais savoir ce qu'il avait derrière la tête et à quel rafio il voulait me refiler. Parce que, autant le lui dire tout de suite, je ne monte pas sur un bateau de contrebande, moi. Ça, même en s'y mettant à 10, on ne pourrait pas m'y traîner. Où ? Vous n'allez pas tarder à le savoir. Avec la meilleure volonté du monde, je n'aurais pas pu prétendre qu'il était d'une extrême amabilité. Mais les types qui enrôlent les marins ne se fendent d'un peu d'amabilité que s'ils n'arrivent à trouver personne pour un rafio. Apparemment, il voulait donc m'emmener sur un bon petit bateau. Je n'aurais jamais pensé me retrouver aussi vite embarqué, mais on a parfois du bol. Il ne faut pas se laisser trop vite décourager. Enfin, nous atterrîmes... Où ça ? Vous avez deviné. Au poste de police. Là, on me fouilla aussitôt scrupuleusement. Après m'avoir examiné sous toutes les coutures, le type me demanda avec le plus grand sérieux. Pas d'armes ? Pas d'outils ? J'avais la main qui me démangeait, comme si j'avais pu me planquer une mitraillette dans une narine ou une pince monseigneur sous une paupière. Mais les gens sont comme ça. S'ils ne trouvent rien, c'est qu'on a dissimulé ce qu'ils cherchent. Que l'on n'ait jamais possédé ne leur vient... Qu'on ne l'ait jamais possédé ne leur vient même pas à l'esprit et ils ne le comprendront jamais. Sauf que, à l'époque, je l'ignorais encore. Voilà, alors ça, c'est sa première arrestation en Hollande. Et non, en Belgique, pardon. Du coup, après, il se refait arrêter de nouveau en Hollande et tout. Enfin, bon. En fait, les flics belges ne savent pas quoi faire de lui. Et en fait, ils l'expulsent vers la Hollande, enfin, vu qu'il est apatride, que de toute façon, il ne peut prouver aucune nationalité. Bah, ils savent pas d'où il vient et du coup ils lui disent bah va faire un tour en Hollande et ils l'escortent jusqu'à la frontière hollandaise et ils le relâchent. Il se refait arrêter en Hollande, enfin bref. Et quelques temps après il se retrouve en France. Alors je me demande si je vais vous lire. Ouais, je vais vous lire le passage où il se fait arrêter en Hollande plutôt. Voilà. Donc juste avant ça, il s'était fait donner 20$ par un dénommé Phoebe qui avait été ému de son histoire et tout ça. Donc il dit « Une âme noble, ce Phoebe. Que Wall Street le bénisse. 20$ représentent en effet une somme énorme, quand on les possède. Mais quand on est forcé de les dépenser, on s'aperçoit soudain que c'est moins que rien. Surtout quand on vient d'en passer par une série de journées sans repas et de nuits sans lit. Avant que je me rende compte de sa valeur, l'argent avait filé. Seuls les riches connaissent la valeur de l'argent, parce qu'ils ont le temps de l'évaluer. Comment peut-on apprendre à reconnaître la valeur d'une chose qu'on vous reprend aussitôt ? On nous rabâche pourtant que seul celui qui n'a rien sait ce que vaut un cent. D'où les oppositions de classe. Il vint plus vite que je l'avais prévu, le jour où, selon toute probabilité, je me réveillais dans un lit pour la dernière fois. Je fouillais mes poches et constatais qu'il me restait tout juste de quoi me payer un petit déjeuner expéditif. Les petits déjeuners expéditifs ne sont pas à mon goût. Ils sont toujours le prélude de déjeuners et de dîners inexistants. On ne trouve pas un Phoebe tous les jours, hélas. Mais si je devais en rencontrer un, je lui raconterais mon histoire de la manière la plus comique possible. Peut-être que l'idée de Phoebe a Peut-être en pleurerait-il à fendre l'âme et en concevrait-il le contraire de l'idée de Phoebe à 5000$. On peut toujours tirer de l'argent d'une idée, qu'elle soit triste ou gaie. Il y a autant de gens qui aiment pleurer et sont prêts à payer quelques dollars pour ça que de gens qui préfèrent rire. Oui, qui préfèrent rire. Allons bon, que se passe-t-il ? Ne peut-on pas somnoler encore un peu dans un lit qu'on a payé avec ses derniers florins, un luxe auquel il faudra renoncer pendant un certain temps ? Laissez-moi dormir, bon Dieu, j'ai payé hier soir avant de monter. Comment ne pas s'énerver ? Quelqu'un cogne à la porte. Après une interruption, les coups reprennent. Bon sang de bonsoir, vous n'avez pas entendu ? Fichez le camp, je veux dormir ! S'ils ouvrent la porte, je leur balance une godasse en pleine poire. Non mais, quelle bassesse, quelle insolence, les canailles ! Police, ouvrez ! Nous voudrions vous parler un instant. Je commence à douter sérieusement qu'il y ait encore ici-bas des gens qui ne soient pas des policiers. La police est là pour maintenir la paix, n'empêche que personne ne fait davantage de tapage, ne cause plus d'ennuis, ne rend les gens plus dingues. Personne n'a occasionné autant de malheurs sur cette terre, car les soldats sont aussi, après tout, des policiers. Que me voulez-vous ? Vous parlez, c'est tout. Vous pouvez le faire à travers la porte. Nous aimerions vous voir. Ouvrez-nous. Ouvrez ou nous enfonçons la porte. Enfoncez la porte. Et ils sont censés nous protéger contre les cambrioleurs. Bon, j'ouvre. Mais à peine ai-je entrebâillé la porte qu'un des gars y glisse le pied. Je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent avec ce truc usé. C'est peut-être le premier qu'on leur a appris. Ils entrent, deux types en civil. Je m'assois au bord du lit et ils commencent à m'habiller. Je ne me débrouille pas mal en hollandais, j'ai navigué sur des bateaux hollandais et j'ai ajouté quelques mots à mon vocabulaire depuis que je suis ici. et de Lascar parle aussi un peu l'anglais. Vous êtes américain ? Oui, il me semble. Votre livret de marin, s'il vous plaît. Ce livret semble être devenu le centre de l'univers. Je suis sûr qu'on a fait la guerre uniquement pour pouvoir réclamer dans tous les pays livret de marin ou passeport. Avant la guerre, personne ne voulait demander, et les gens s'en portaient beaucoup mieux. De toute façon, les guerres menées au nom de la liberté, de la démocratie et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sont toujours suspectes. Et ce, depuis que les Prussiens se sont soulevés contre Napoléon. Quand une guerre de libération est gagnée, tous les gens sont ensuite privés de liberté, car la guerre l'a emporté sur la liberté, parfaitement. Je n'ai pas de livret de marin. Vous n'avez pas de livret de marin ? J'ai déjà entendu ce ton ébahi, et voilà qu'il fait sa réapparition au moment précis où je m'apprêtais à passer ce début de matinée à somnoler agréablement. Non, je n'ai pas de livret de marin. Votre passeport, alors ? Je n'ai pas de passeport. Et pas de pièce d'identité délivrée par les autorités hollandaises non plus. Et voilà, puis donc là, ça continue un peu comme en Belgique. Enfin, il va lui arriver plusieurs fois la même chose. Et voilà, bah en fait, donc après, j'ai un peu le choix entre différents passages. Alors, je voulais vous lire aussi, c'est mes aventures en France, parce que c'est assez intéressant. Mais peut-être que du coup, pour gagner du temps, on va passer à un autre chapitre qui est assez marrant aussi, et qui a un peu rien à voir du coup. Et c'est un moment où il se retrouve en Espagne, et il dit que l'Espagne, c'est le seul pays où il arrive à ressentir un quelconque sentiment de liberté. Et voilà, bon, je voulais vous lire un peu ses réflexions sur la liberté là à l'époque. Alors, c'est assez marrant. Parfois, lorsque j'étais allongé sur un banc, un flic me réveillait pour me prévenir qu'il allait pleuvoir et que je ferais mieux de me mettre à l'abri sous la porte cochère, en face ou dans le hangar au bout de la rue, où il y avait de la paille et où je dormirais plus confortablement sans me faire mouiller. Quand j'avais faim, j'entrais dans une boulangerie et je disais à l'homme ou à la femme qui la tenait que je n'avais pas d'argent, mais d'autant plus faim, et on me donnait du pain. Personne ne m'empoisonnait l'existence en me demandant « Pourquoi ne travaillez-vous pas ? Vous êtes pourtant un robuste gaillard en pleine santé. » Les gens auraient trouvé cette question indélicate. Car si je ne travaillais pas, c'était sans doute que j'avais une bonne raison. Ils auraient estimé inconvenant de chercher à la connaître. Et pourtant, il y en avait des bateaux. Certains jours, une demi-douzaine. J'aurais sûrement pu trouver du boulot sur l'un ou sur l'autre. Mais je ne m'en souciais pas. Je ne courais pas après le travail. Pourquoi l'aurais-je fait ? Le printemps espagnol était arrivé. Et j'aurais dû me préoccuper d'un emploi ? Alors que j'étais sur cette terre, que j'étais bien vivant, et que je humais l'air avec délices. La vie était merveilleuse, le soleil doré et tiède. Le pays possédait un charme fabuleux, ses habitants se montraient aimables quand bien même ils étaient vêtus de haillons. Tout le monde était poli, et surtout, on pouvait jouir d'une vraie liberté. Pas étonnant que l'Espagne n'ait pas participé à la guerre pour la liberté et la démocratie du monde. Ici, la guerre ne l'avait pas emportée sur la liberté perdue pour les hommes. Les nations qui se prétendent les plus libres accordent en réalité infiniment peu de liberté à leurs habitants et les maintiennent en tutelle toute leur vie. C'est d'un ridicule achevé. Un pays où on passe son temps à parler de liberté et où on prétend qu'elle n'existe qu'à l'intérieur de ses frontières me semble toujours suspect. Quand je vois une gigantesque statue de la liberté à l'entrée du port d'un grand pays, je n'ai pas besoin qu'on m'explique ce qu'il y a derrière. Si on se sent obligé de hurler « Nous sommes un peuple d'hommes libres !» c'est uniquement pour dissimuler le fait que la liberté est déjà fichue ou qu'elle a été tellement reniée par des centaines de milliers de lois, décrets, ordonnances, directives, règlements et coups de matraque qu'il ne reste plus pour la revendiquer que les vociférations, les fanfares et les déesses qui la représentent. En Espagne, personne ne parle de liberté. Et dans un autre pays où on n'en parle pas non plus, j'ai entendu un jour évoquer les entraves à la liberté lors d'une énorme manifestation. Cette manifestation à laquelle participa toute la population, les citoyens respectables ne craignant pas d'avancer derrière les drapeaux communistes et anarchistes, et les communistes ne dédaignant pas de marcher derrière le drapeau de la patrie, entendaient protester contre la police qui essayait d'instituer une sorte de déclaration obligatoire de tous les habitants, sur le modèle prussien. En fait, elle avait simplement suggéré que chaque citoyen devait, une fois par an, communiquer à la police son adresse, son nom, son âge et sa profession. Mais la population flaira aussitôt le danger et comprit que c'était mettre le doigt dans l'engrenage. Voilà. Donc il écrivait ça dans les années 20. Et voilà, c'est un peu le début du processus dans lequel on est embarqué aujourd'hui. Voilà, alors tout ça c'est juste la première partie du livre, il y a une deuxième partie après qui est complètement différente et que je révélerai pas. Vous avez qu'à vous débrouiller pour vous procurer le bouquin. Voilà, il était chez Dialogue à un moment, il est plus en ce moment je crois bien, mais peut-être en demandant gentiment aux vendeuses et aux vendeurs, et peut-être en attendant un petit peu, il fera peut-être sa réapparition, ou sinon dans d'autres bonnes librairies. Voilà, ça s'appelle Le vaisseau des morts de Beethoven. Voilà.
Sinon, on peut peut-être le trouver en bibliothèque.
Sinon, c'est vrai aussi.
Merci les gens dans le studio.
Ouais, et donc, du coup, on va peut-être s'écouter un petit morceau de musique. Et puis après, bah, on va passer aux petites infos locales et,
voilà,
et
voilà.
Internationales. Ouais.
Ta Dex gauche, carte d'identité, bientôt les puces dans la nuque, c'est haut. Tentative de suicide dictée, désirant susciter la vue d'un monde cadré et sécurisé, où seul le fait d'obéir est autorisé. Miser sur la peur de masse, sa bêtise, théoriser la domination, terroriser une race agrétiste et faiblesse. Lorsque l'instinct te stoppe au feu rouge, il est si simple d'inscrire en toi un ordre un peu louche. Plus d'un bouche à nourrir, c'est la lutte des classes, maîtrise l'hérétique, tes fourrés grands disciples s'écrasent. N'écrase pas la rébellion, évite qu'elle naisse. Terrorisme, insécurité, parle près de télévision, belle messe, pêle-mêle, écoute téléphonique. Caméra et fichage ADN ne font plus tâche dans ton paysage. Trop occupé à sucer pour un BN. Les rênes entre leurs mains, ils te font investir dans les bérets et dans le pain. Ils disent que les fumeurs de shit financent le terrorisme. Et qu'un ricain qui combat en Irak pour faire le plein fait preuve d'héroïsme. L'égoïsme nous gagne tout, c'est espèce autiste dont on compresse les vis, puis vivante la masse stresse telle l'écrevisse. Les vis bien serrées à la chaise, les ondes électriques nous traversent, nos gestes se prédisent, les bourreaux font carrière. Vive de tes crédits, connard, de tes faiblesses paraverses, t'es qu'une gamine oublie en plein cagnard sur la plage arrière.
Nous ne détruisons pas l'hérétique parce qu'il nous résiste. Tant qu'il nous résiste, jamais nous ne détruisons. Nous faisons de lui un des nôtres avant de le tuer. Nous en faisons une cervelle parfaite avant de la faire sauter. Nous créons la nature humaine. L'humanité est infiniment malléable.
Les animaux politiques semblent avoir perdu leur flair, puisque 2 et 2 font 5, et que la paix est une guerre. Paroles de cloaque, les écrivains de science-fiction étaient des oracles, experts dans l'art de comprendre les manières de matraque. Qui a dit que la liberté n'était pas soumise aux lois du marché, quand jusque dans tes gènes on ira chercher ton identité. Certains tatouages ne sont toujours pas effacés, et les mouchards microscopiques bientôt injectés. Et ton sang véhiculera les informations vitales nécessaires à l'expansion de l'espionnage social. La cité est un espace surveiller un étrange univers où l'on distingue plus les caméras des lampadaires, et les citoyens s'en branlent à se faire saigner la bite. Quand la sphère privée est contaminée par la sphère publique, les mêmes horreurs ressurgissent de l'intemporel, pondu par des enfants de putain en manque de contrôle. C'est fou comme l'érection d'un monarque est nuisible. Heureusement le mouton est d'un naturel paisible. Les orbites oculaires des satellites sont sensibles. Mais qu'y a-t-il de si horrible ou pénible? Les yeux du père sont partout,
supprimant le fardeau du choix.
Les yeux du père sont partout,
sous ses mains, sa tête, sa voix.
Les yeux du père sont partout,
dans ton sang, dans tes gènes, à l'intérieur de
les
toi.
Les yeux du père sont partout,
dans tes peurs, dans tes cris, dans tes droits.
Une question: comment un homme s'assure-t-il de son pouvoir sur un autre? L'obéissance est loin de suffire. Le pouvoir, c'est infliger souffrance et humiliation, autrement rien n'est vraiment assuré. Le pouvoir, c'est déchirer l'esprit humain, le remodeler sous de nouvelles formes de son choix. Le pouvoir n'est pas un moyen, c'est une fin. Dans notre monde, il n'y aura plus que triomphe et abaissement. Tout le reste, nous le détruirons. Le passé est à jamais banni. Pourquoi ? Simplement parce que si l'on coupe l'homme de son passé, alors on peut le couper de sa famille, de ses enfants, des autres hommes. Tous les plaisirs de l'émulation, nous les détruirons. Si vous voulez une image du futur, imaginez une botte qui piétine un visage humain.
C'était La Secte sans nom, la boîte de Kovacs, c'est la piste 9 de la compile sur le refus du fichage ADN dont on a parlé au début de l'émission. Quelques petites annonces en speed. Basse intensité, info kiosque radiophonique des faubourgs de l'Antimonde a un site web, trop bien. basseintensité.internetdown.org, ce sera sur notre site. Voilà.
Voilà. Sinon, c'est aussi une émission sur Radio Galère à Marseille d'ailleurs.
Voilà.
Et il y a déjà des infos sur notre site à nous qui s'appelle mutinmutine.c. Et voilà, avec des liens et tout vers tout ça. Et sinon, alors là, on a plein d'infos à faire passer, toujours en speed. Demain, il y a des gens qui sont en procès à Brest parce que ils ont des toilettes sèches à la maison et qu'ils veulent pas payer la taxe d'assainissement. Ça se passe à Landerneau. Et en fait, c'est eux qui attaquent la communauté de communes de Landerneau pour pouvoir ne pas payer cette saleté de taxe d'assainissement, surtout quand on a des toilettes sèches, ça sert vraiment à rien. Voilà. Et sinon, lundi prochain, c'est une info qu'on a déjà donnée la semaine dernière, mais on le dira jamais assez, c'est le procès des jeunes de Ponta qui sont poursuivis suite aux émeutes de 2005, voilà, et qui sont accusés d'avoir tiré des coups de feu sur la police. Ça se passe lundi prochain au tribunal. Et voilà. Et sinon, on voulait dire aussi que par rapport aux bouquins, tout ça, on trouve des super bouquins à Brest dans deux endroits très très recommandables. Et c'est chez Daniel Roignan à la place Guérin, le bouquiniste de la place Guérin, et la petite librairie qui se trouve au
29 Terre, rue de la République.
Voilà, c'est ça.
Et il y a tout plein de brochures là-bas aussi.
Voilà. Et puis sinon, il y a encore un coup de fil de Tony et ses enfants pendant l'émission du 56. Tony et ses enfants du 56 qui passent un message à Mimiche et qui disent qu'ils pensent très fort à elle et qu'ils l'aiment beaucoup. Et voilà, et ben bah, salut Mimiche, nous aussi on salue. Et ben bah, donc du coup très vite on va Anso va nous dire ce qui va se passer dans les trois prochains jours. Là, il y a une activité très très intense du côté du Casse-Papier.
Donc voilà, Casse-Papier, collectif d'action, de soutien, de solidarité aux personnes sans papier. Donc il y a en gros trois dates à retenir. Demain, à partir de 17h, on vous propose une soupe avec des légumes bio et tout ça. Donc une soupe solidaire en fait, en soutien à Youssef et à toutes les personnes sans papier. Youssef, c'est un jeune Marocain qui s'est fait expulser au mois de décembre. Donc voilà, on essaye de récolter un peu de thunes parce que les frais d'avocat, ça coûte cher. Et toujours en soutien à Youssef, mais aussi à toutes les personnes sans papier. Hein. Vendredi, à Saint-Renan, à l'Odyssée, à partir de 21h, il y aura un concert avec trois groupes, Viande Rouge, Jeanne et les Calamités et The Skax. Et sinon, la troisième date à retenir, en fait, c'est samedi, il y a une journée européenne contre l'enfermement des personnes sans papier. Voilà, il y aura des mobilisations dans plein de villes, essentiellement devant les centres de rétention administrative. Et donc, le Casse-Papier appelle à participer à cette journée. On vous donne rendez-vous pour un départ de Brest.
10h place de Strasbourg.
Voilà, 10h place de Strasbourg pour partir à Rennes où il y aura un rassemblement à 14h place de la mairie et ensuite à 16h devant donc le centre de rétention de Saint-Jacques-de-la-Londe qui se trouve à côté de Rennes, qui est ouvert depuis cet été. Voilà. Et donc cette journée-là, c'est vraiment pour la fermeture de tous les centres de rétention. Partout en Europe, voilà, pour la liberté de circulation et d'installation des personnes dans le monde. Voilà. À demain à la soupe à 17h.
Voilà, demain c'est devant la mairie à 17h. Et vendredi soir,
c'est à Saint-Renan à l'Odyssée. Voilà. 21h.
Voilà. Et sinon, il y a un mail pour contacter le Casse-Papier si les gens.
Ouais, alors le mail c'est donc Casse-Papier CA3SPAPIER. @no-log.org.
Voilà. Et puis si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas suivi tout, on mettra toutes les infos sur notre site internet. Voilà. Mutinmutine.c.là. Vous pourrez voir ça ce soir.
Ouais.
Et ben salut, à la semaine prochaine.
Salut.
Salut.
À bientôt.
Une mutinerie, c'est une révolte. Une rébellion contre l'autorité. Hein? Un mutin, c'est une personne en révolte contre l'autorité établie.
Allez, debout là-dedans. C'est quoi ça? Debout là-dedans, bordel! Allez, debout là-dedans!
C'est quoi ce bordel?
Allez, debout! Debout là-dedans! Motive tes troupes, t'as